suis dit à ma mère que je vais être architecte. Après, elle m'a dit bah, faut travailler à l'école. Après, elle m'a dit je vais passer le diplôme d'animateur. Comme ça, je gagne de l'argent et je peux payer l'école d'architecte parce qu'elle m'a dit ça coûte très très cher. Comme ça, pendant les vacances d'école, je vais être animateur dans les centres de loisirs pour payer l'école d'architecture. Les architectes, ceux qui vivent dans les grandes villes, eh ben, ils savent pas la vie de banlieue, comment c'est, etc. Ils font des bâtiments, de grands bâtiments. Après, comme le bâtiment il est grand, et ben après les gens ils veulent pas vivre dedans. Dans l'ancien bâtiment où j'habitais, il était très très haut. En fait, c'est un enfant, il était en train de jouer avec son père dans le balcon. Après, son ballon il s'est envolé, les ballons qui se gonflent. Après, il s'est envolé, après il a voulu le rattraper, il s'est penché, il est tombé du 7e étage. Et les Français, enfin nous on est Français, mais ceux qui sont d'origine française, eh ben, ils n'aiment pas vivre ici. Ils préfèrent vivre dans les grandes villes comme Paris, etc.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Naïla Hanafi est une petite bonne femme d'une douzaine d'années qui aimerait tuer Mickey pour empêcher la souris géante de conquérir l'univers et qui compte bien aussi devenir architecte pour construire des immeubles où il ferait bon vivre, même en banlieue. Naïla est élève au collège Claude Debussy d'Aulnay-sous-Bois et elle est l'un des 11 personnages de Swagger qui est sorti ce mercredi en salle. Un film merveilleux, mêlant réalité et fiction, tout de grâce et d'intelligence, plein de douleur et de tendresse, dans lequel 11 garçons et filles racontent la vie telle qu'ils la voient, leurs rêves et leurs cauchemars, leurs blessures et leurs victoires. Ils sont français, mais pas d'origine française, comme ils le disent, car ceux-là, autrement dit, les Blancs, il y a longtemps qu'ils sont partis, à part leurs enseignants, bien sûr. Swagger, en anglais, fanfaronner, est un verbe inventé par Shakespeare en 1590 que l'on trouve dans le songe d'une nuit d'été. Adopté par les gamins de banlieue, il désigne aujourd'hui, dans ses déclinaisons comme swagologue ou swagance, les gens cool, ceux qui ont du style. Et Dieu sait s'ils en ont du style, ces ados que le réalisateur Olivier Babinet a d'abord apprivoisés durant ses 2 années de résidence à Aulnay, avant d'en faire les héros de son film. Documentaire, certes, Swagger n'occulte rien de la grande misère de ces familles dans lesquelles les enfants sont souvent les seuls à parler français. Mais film de fiction aussi, dans lequel les fantasmes de ces personnages sont mis en scène dans une lumière magique. Swagger a été sélectionné à Cannes cette année et il est sorti ce mercredi dans les salles. Surtout, ne passez pas à côté. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Olivier Babinet est l'invité de l'Humeur Vagabonde.
À cause d'un pouvoir de faire rimer n'importe quoi, je fais gaffe à ne pas devenir un vieux porte-voix. Je pense à mon porte-avions, ils aiment les grosses voitures. Mon ambition, c'est le bonheur sous bonne toiture. Un pour la poire de mes fans, deux pour ma pomme. T'as le choix pour faire une tarte. Oui, je déconne, la plume est incroyable. Elle rivalise la vie. Dès que je pose un stylo, on analyse la mine. En une chanson, l'émotion multipliée. Et si t'es fan du cul, cliques, oui, tu cliques. Prends un bouquin, ça t'occupera. Moi, je suis quelqu'un en personne. Oui, je suis le rap. Oui, c'est moi. Oxmo, cappuccino, quel jeu de mots tout pourri. J'écris des brevets pour poètes secouristes. Mise à l'amende sur mélodiste hispaniche. Tu vas grogner donc je te sors 1000 caniches. Oui j'insiste, Louis a dépassé l'odorat. T'as vu, oui je frime, m'en fous de ce texte. Mais Jean-Pierre Sec m'a dit le jette pas au nom de ta première cassette. Écrire en double car la moitié en grosse l'état. Couvrir le monde comme Mondos l'état. Ancien tel un reptile sans chaud. Chapeau mexicain de Mike sous le poncho. Car si le public n'est pas heureux d'être ici, plus tu chantes,
plus tes textes rétrécissent. Oui je, oui je, oui je, oui je, je. Oui je, oui je, oui je, oui je, oui je. Oui je, oui je, oui je, je, oui je. Oui je, 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 je. Oui je, oui je, oui je, oui c'est moi. Oui je, oui je, oui je, oui un moi. Oui, oui, oui je, oui je, yeah. Bon vivant comme un bon breton. Ce soir mon tourbus décolle et ouais je suis content. Monte pas trop le jean, gèle ta crête. Mon nouveau son est de sortie, ta belle s'apprête. Avocat pour auteur, interprète. Je les protège des mauvais traitements de texte. Mon araignée dans la pauvreté, pas la délinquance. Je le martèle car c'est ainsi que tous les vilains pensent. Espèce d'enfoiré de tes cheveux. Les cons osent tout, je compose avec ma voix, je fais ce que je veux. La classe d'un short parmi lui dressing. Y'a de la rafale de côté, oui je précise.
Dans ma vie, c'est... Je crois que c'est quand je suis parti en Afrique. Je me considère un peu comme français. Mais je me considère plus comme... Ivoirien.
Mes cousines qui vivent au bled, ils disent que moi, j'ai de la chance. Parce que tout ce que je veux, je l'ai. Et eux, non. Je suis française.
Déjà, avoir les papiers, c'est... C'est quelque chose de grand, d'être français, de dire qu'on est français, c'est, pour moi, c'est quelque chose de...
Bonjour Olivier Babinet.
Bonjour.
On vient d'entendre Abou, Astan et Paul Turgot, trois autres personnages de votre film Swagger, qui est sorti ce mercredi. Et en fait, ce film... J'ai lu beaucoup des critiques favorables d'ailleurs qui l'ont accueilli depuis Cannes. Les critiques sont désarçonnées parce que c'est un film qui parle de la banlieue, mais pas comme d'ordinaire. Le point de vue a changé. Au lieu de regarder la banlieue de l'extérieur, ce sont des gamins de la banlieue qui regardent leur vie et qui nous regardent, nous. Et en fait, juste ce changement de point de vue... produit un film qui ne se laisse pas facilement oublier, comme si c'était simplement ça, ce pas-là, entrer chez eux et leur donner la parole. C'est ça que vous vouliez faire?
Oui, c'est ce que je voulais faire. Et moi, j'ai passé du temps, 2 ans, avant d'avoir l'idée même de faire un film, puisque j'étais là-bas pour les aider à apprendre à faire des films pendant ces résidences d'artistes. Et c'est vrai que je me suis dit, il faut absolument que je parte toujours d'eux, déjà que je leur donne la parole, et puis il y aura que leur parole, il y aura aucune parole d'adulte au-dessus, ou d'architecte, de sociologue, de j'en sais rien, de commissaire, de principal pour faire des commentaires.
Oui, ou ces paroles-là, on les entend beaucoup.
Voilà.
Oui.
Et ça sera que leur parole à eux. Et d'ailleurs, la mienne est absente du film aussi. Mais je voulais regarder depuis Aulnay, effectivement, et depuis l'intérieur de leur tête. C'est ce que j'ai essayé de faire, de rentrer à l'intérieur de leur tête. Il y a une chose qui m'a aidé, qui est à la fois un peu simple, mais c'est que j'ai grandi à Strasbourg, donc en province. J'ai connu ce rapport à Paris qui est pas le même forcément, mais c'est la ville où on rêve d'aller, quand on rêve d'y aller. Et donc là-bas où je voyais depuis Aulnay la tour Eiffel briller dans la nuit, j'arrivais aussi à me mettre à leur place. Et puis peut-être que dans la vie de province, où moi qui ai fait beaucoup le mur la nuit, adolescent, et y a rien à faire quand on a 15 ans dans la rue, à Strasbourg, à l'époque en tout cas, à part aller à la station-service, acheter de la bière. Donc on passait des nuits entières sur des bancs à combler ce vide, mais par de l'humour, par plein de choses et peut-être des délires parfois poétiques. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça dans les cités aussi.
Mais c'est sûrement dans ce que vous venez de dire, d'ailleurs, Olivier Babinet, qu'il faut chercher la recette secrète de la réussite de ce film. C'est-à-dire, à la fois, vous leur ressemblez, d'une certaine manière. Enfin, le petit Olivier Babinet, d'autrefois, leur ressemble, donc il comprend bien. Il n'y a pas de parole surplombante, vous avez d'ailleurs coupé toutes vos questions au montage. Il n'y a pas de jugement, il y a une immense curiosité, et puis il y a eu le temps, parce qu'effectivement, il a fallu les apprivoiser, ces gamins. Vous étiez donc en résidence d'artiste à Aulnay, ce qui peut sembler bizarre pour les gens qui rêvent d'aller en résidence d'artiste à Rome, par exemple, à la Villa Médicis. Vous étiez à Aulnay, donc ça montre que vous avez pris le temps, vous êtes rentré dans leur monde, et ils vous ont adopté, mais ça montre aussi quelque chose, c'est que ces fameux ateliers cinéma, tout le monde, les gens bien pensants doivent se dire « oui, c'est pour faire bien », ça marche. Il y a quelque chose qui a marché.
Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que si j'étais allé à la Villa Médicis, je ne suis pas sûr que j'aurais eu grand-chose à raconter. Peut-être que j'aurais rien foutu. J'aurais vu du bon vin dans les jardins et puis je serais revenu bredouille, à mon avis. Mais là-bas, ça n'a pas du tout été le cas. Après, ça marche... Oui, et puis c'est un dispositif assez particulier qui n'existe qu'en Seine-Saint-Denis, et je trouve que devrait se répandre dans toute la France. C'est-à-dire que c'est pas simplement des artistes qui sont en résidence. Il y avait la même année que moi des designers, un couple de designers qui ont travaillé avec les enfants à l'élaboration d'une chaise et d'une table pendant un an, et donc une chaise et une table capable de résister à des adolescents, des collégiens, mais conçus avec ces collégiens qui se balancent dessus, qui grattent avec leurs cutters les tables. Et à la fin, ils ont réalisé un prototype qui a été exposé. Et donc c'est très concret, quoi. Puis on approche un métier. Et moi, je fais un métier à la fois assez abstrait, un peu solitaire, puisque la plupart du temps, je suis seul devant mon ordinateur à essayer de d'écrire. Et en même temps, puisque à la suite de ces ateliers, j'ai fini par tourner un film là-bas, ils ont aussi vu tous ces métiers du cinéma, de cette industrie qui est plus importante en France, quoi, l'industrie du spectacle que l'industrie de l'automobile, et tous ces métiers. Et donc ça s'est... passé le premier moment où ils savaient qu'il y avait un réalisateur en résidence, ils me disaient « Ah, vous êtes Spielberg, moi je veux être acteur, je suis acteur. » Bon, moi j'aurais dit acteur, c'est galère, hein. Tous les acteurs que je connais, ils ont un deuxième métier à côté, ils attendent que le téléphone sonne, donc déjà, faut trouver un métier, et puis après, peut-être tu seras acteur. Mais ils ont vu, oui, une équipe au travail, et ça c'est... Et tous les gens de la cité aussi, puisqu'on était une trentaine. Mais par exemple, Nazario, qui est dans le film, qui voulait devenir informaticien militaire, et je pense qu'on a évité peut-être des millions de morts, parce qu'il aurait peut-être construit des systèmes de guidés pour missiles. Il veut devenir électro maintenant, donc il a rencontré, quoi, il revenait tous les jours, il avait accroché avec le chef électro Miwash, et il revenait tous les jours, il a commencé à apprendre le nom du matériel, et il va faire un stage là bientôt. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à votre question, je suis parti.
Oui,
un peu
alors
partout.
Ses enfants, ils sont 11, ils s'appellent Naïla, Aaron, Régis, Paul, Elvis et d'autres. Et on va en écouter quelques-uns d'entre eux qui parlent devant votre caméra, Olivier Babinet. Ils parlent de ce mot étrange, français.
Je connais pas les français de souche. Je sais pas c'est quoi souche.
Il était dans ma classe au début de l'année. Après, il a déménagé. C'est le seul que j'ai rencontré.
Quand j'étais partie à Paris, je voyais plus de français que de noirs ou arabes. Ça m'a fait bizarre parce que j'ai l'habitude de voir des arabes ou des noirs et là je voyais que des blancs.
Il était grand, il était blond, il avait des yeux bleus. Il était gentil, ça va.
Jamais, je crois. Enfin peut-être si, mais sans me rendre compte en fait. Peut-être j'en ai déjà rencontré, mais peut-être j'ai les oubliés en fait.
Ils sont pas avec nous. Enfin, ils sont en France, mais ils sont pas avec nous. Ils sont plus dans le collège du 7-5. On va être étonné si on voit un français, un pur français.
Je sais pas si c'est de plusieurs générations, mais j'en connais des français. J'ai une copine à moi, enfin, copine. Ah non, elle est portugaise.
Et moi, j'ai rencontré à Paris, et je les considère comme des personnes normales. Hein. Pareil.
Je sais pas trop pourquoi ici il y a que des Noirs et des Arabes.
Les Noirs et les Arabes, on n'est pas pareil que les Français. Mentalement, on n'est pas pareil. Moi, si demain je me mets avec un Français, dans ma famille, ça va pas être pareil. On n'est pas de la même culture. J'arrive pas à imaginer que moi, ma copine, ce serait une Française. J'arrive pas. Parce qu'on n'est pas pareil. On peut pas vivre ensemble.
Ils sont pas pareils, ils se sentent pas pareils. Olivier Babinet, c'est une parole d'une grande dureté pour nous autres qui croyons à la France multiculturelle. C'est une grande vérité. J'imagine que pour obtenir des paroles aussi simples et radicales, il vous a fallu, on le sent d'ailleurs, il y a un énorme travail de montage. Il y a beaucoup de choses qui ont dû être enlevées, d'autres mises en scène. C'est ce qui s'appelle faire un film. J'imagine que ça n'a pas été simple pour arriver à obtenir les confidences, parce qu'il parle, et on le sent bien, avec une très grande vérité.
C'est vrai. C'est ce que je redoutais le plus dans le film, parce que c'est les entretiens, puisque j'avais jamais fait ça avant. Et puis, moi, j'ai toujours fait de la fiction, et j'aime bien écrire des histoires et les contrôler, et puis là c'était complètement l'inconnu pour moi, et je sais pas complètement ce qui fait que ça a fonctionné. C'est un mélange de, il y en a certains d'entre eux que je connaissais bien. Quand on leur demande pourquoi ils ont accepté le film, ils disent bah parce que c'était Olivier, et tout simplement. Et c'est vrai qu'on était, on avait une forme d'amitié qui s'était développée, on avait travaillé ensemble sur leur film, je mangeais à la cantine avec eux, voilà, des liens s'étaient créés. Mais il y en a d'autres que je connais, Naïla par exemple, qui veut devenir architecte et qui
n'aime pas Mickey.
Et qui n'aime pas Mickey, je la connaissais très peu, j'avais parlé une fois avec elle. Les gens disent qu'il y a beaucoup de pudeur dans le film et ils aiment bien ça, mais sûrement c'est leur pudeur et la mienne aussi, et j'étais intimidé autant qu'eux, donc je leur disais aussi au départ. Et ce qui est peut-être une manière d'être d'égal à égal, et pas, je voulais surtout pas être au-dessus d'eux avec mes questions. Et puis je leur racontais beaucoup de choses qui sont pas dans le film, mais qui sont effectivement des souvenirs, des... Et ça, petit à petit, à bout de, parce que on a passé 5 ou 6 heures par enfant, bah ils se laissaient aller. Et...
On imagine que c'est sur la base du volontariat. Il a fallu qu'ils viennent vers vous.
Moi, j'avais un principe pour le film, c'était je prends tout le monde. Parce que dans le film, il y a 120 gamins, hein, il y a 11 protagonistes, mais il y a tous les autres. Il y a des scènes de groupe, des scènes au collège. Donc c'était une manière de surtout pas dire toi, pas toi. Et puis après, je disais, mais bon, j'en cherche certains qui acceptent de répondre à des questions, et devant l'équipe, avec 2 caméras, etc. Puis il y en a plein qui disent, ah non, non, moi je veux pas faire ça, je veux bien faire le film, mais je veux pas faire ça.
Alors, ils ont tous des personnalités incroyables. Mais il y en a une, Aïssatou,
oui,
qui est tellement malade de timidité qu'elle n'arrive même pas à dire son nom dans le film. Et on se dit, mais comment une gamine comme ça, aussi mal dans sa peau, aussi pleine de douleur, parce qu'elle explique que depuis sa maternelle, où elle a été maltraitée, elle n'a plus confiance en personne, et pourtant elle a eu confiance en vous au point de parler devant une caméra. Et on est absolument admiratif en se disant, mais comment c'est possible, quoi?
Ben, je l'ai rencontré parce qu'on passait beaucoup de temps pour le casting, entre guillemets, ce casting où on prenait tout le monde, mais à faire des allers-retours, les autorisations parentales, les parents qui parlent pas français, les enfants qu'oublient, quoi, c'est des semaines et des semaines de boulot. On restait à toutes les récréations avec nos fiches pour les parents, puis on parlait aux enfants. Et une fois, Aïssatou est venue à s'asseoir à côté de moi, et elle est restée, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est restée toute la matinée à côté de moi. Et puis elle regardait le sol, puis tout d'un coup elle me regardait dans les yeux, tout d'un coup elle transperçait, comme si elle lisait en moi, et puis elle a un très beau sourire, puis elle se referme complètement, et elle m'a posé plein de questions, elle était très, très curieuse. Et donc moi j'ai parlé avec elle, j'ai répondu, jusqu'à ce que un prof arrive et lui dise « Alors Aïssatou, comment ça va ?» qui lui parlait comme si elle était un peu
retardée,
alors que moi j'ai parlé avec elle normalement. Et je sais pas, c'est peut-être ça qui a fait la différence. Et effectivement, la première question que je leur posais, qui est une question un peu banale, et pour les mettre à l'aise, mais avec elle, ça a été tout le contraire. Je lui ai dit « Comment tu t'appelles ?» et elle n'est pas arrivée à dire son nom. Et donc moi, j'étais complètement la gorge serrée, et on a fait 3 heures d'entretien comme ça. Elle est revenue un an après, parce qu'elle a voulu arrêter au bout des 3 heures, elle était fatiguée. Et puis là, elle avait déjà changé. Et puis je lui ai fait dire son nom face à la caméra devant tout le monde. Et elle l'a dit plusieurs fois. On l'a pas monté, mais on l'a fait.
Et puis, enfin, ils ont tous des vies, des parcours, des personnalités qui nous retiennent. Et il y en a un qui raconte sa vie plus que les autres. Il est joyeux en apparence, c'est lui qui fera une séquence de comédie musicale dans votre film. Il s'appelle Paul Turgot, il vient de Pondichéry et à un moment, il raconte sa vie et celle de ses parents.
Je suis né en Inde, en Pondichéry. Et après 2000, je suis revenu ici en France. La mère à ma mère, à ma grand-mère, quoi, bah, elle a commencé à travailler, à tirer des charrues en Inde, vendre des fruits et légumes. Et des fois, ma mère, il mangeait que la nuit, il mangeait pas le matin et le soir. Quand mes parents ils me racontent tout ça, ça me fait réfléchir. Il faut que je réussisse ma vie, il faut pas que je gâche ma vie. Je suis le modèle de la famille. Quand il y a des dossiers à faire, bah, mes parents ne parlent pas très bien français, ils ne comprennent pas assez, donc je suis obligé de les aider. Ma mère elle cherche un travail, j'écris les CV. Si mes frères et sœurs ne partent pas à l'école ou ils sont malades, j'écris des lettres. Parce qu'il y a 2 ans, mon père il avait beaucoup de crédits en fait, dans sa banque. Donc après, l'État, ils ont saisi la banque et... parce que mon père, il est un peu malade. Et après, il a fait beaucoup... il a retiré beaucoup d'argent. Après, c'est une dette, quoi. Des fois, quand je le vois, je me demande s'il est comme avant ou il a changé. Parce qu'on a encore la... j'ai encore la peur, en fait. Quand je vois mon père, des fois, j'ai peur de demander quelque chose. Il peut me taper parce qu'il est un peu malade aussi. Là, il prend les médicaments, ça va, mais ça dépend. Des fois, je me sens seul, en fait. Quand je viens au collège, en 5e, 4e, je disais des choses personnelles, quoi. Ils sont partis dire à tout le monde. Ils ont su que mon père il était un peu malade, donc après, ils se moquaient de moi. En dehors, je rigole, tout ça, mais à l'intérieur, c'est blessant. Vu que je suis différent des autres, bah, des fois, j'ai l'impression qu'ils mettent de côté. Religion, la couleur de peau. Je pense que c'est des propos racistes. Pour eux, c'est pour rigoler, c'est faire souffrir une autre personne. Bah. Des fois, j'ai envie de pleurer, quoi. Des fois, je suis triste.
Olivier Babinet, au-delà de Paul Turgot, tous vos personnages laissent passer beaucoup de douleurs en même temps que de joie de vivre. Ce sont des gosses qui souvent sont les seuls à parler français, à maîtriser l'écriture, donc ils portent aussi la famille, leurs parents sur le dos, avec les problèmes des parents. Ils ont à la fois cette maturité de petits chefs de famille, pour beaucoup d'entre eux, et en même temps, ils vivent dans ce groupe au collège, dans lequel il y a aussi une assez grande dureté. Là, on entend Paul qui dit « Bah oui, ils se sont moqués de moi parce que mon père était malade. » Donc, racisme aussi, parce que couleur de peau différente, religion différente. Même en dehors de la présence des Français d'origine française, il y a, et ça paraît dans votre récit filmé, il y a un racisme, il y a une agressivité entre eux, qui cohabite avec aussi une assez grande solidarité.
La méchanceté chez les adolescents et les enfants, elle est présente partout, en fait, dans n'importe quel milieu, dans le côté ou de se moquer des petits gros. Voilà, il y a des fois, chez les adolescents, une grande cruauté. Donc, à Aulnay, comme ailleurs... plein vont dire, non, on se mélange tous. C'est vrai, il y a des Sikhs, il y a des Indiens, il y a des Polonais, il y a des Russes, il y a des Blancs d'ailleurs, mais qui sont Polonais et Russes. Mais effectivement, le racisme est quelque chose qui est partagé par tous, je crois. On est tous un peu racistes. Et là-bas aussi, il y a du racisme. C'est un film qui est d'ailleurs, je pense, troublant pour les gens qui sont des racistes traditionnels. Parce qu'on entend certains propos des protagonistes sur les Roms, par exemple, où ils en parlent comme on parle des Arabes et des Noirs quand on est un raciste traditionnel. Et je pense que, j'espère bien que beaucoup de gens racistes verront ce film parce que ça leur enverra un miroir d'eux-mêmes, puis ils verront tout ce qu'ils partagent avec les enfants des cités, y compris la part la plus sombre qui les habite.
May the last one burn into flames.
I meditate for practice. Channel 9 News tell me I'm moving backwards. 8 blacks left, death is around the corner. 7 misleading statements about my persona. 6 headlights waving in my direction. 5-0 asking me what's in my possession. Yeah, I keep running, jumping the aqua. That's fire hydrants and hazardous smoke alarms on the back of us. But mama, don't cry for me, ride for me, drive for me, live for me, breathe for me, sing for me. Honestly, guiding me, I can be more than I gotta be. Stole from me, lied to me, nation hypocrisy, code on me, driving me wicked. My spirit inspired me like, yeah. Open correctional gates in high desert. Yeah, open our mind as we cast away oppression. Open the streets and watch our beliefs. And when they carve my name inside the concrete, I pray it forever reads.
Freedom, freedom, I can't move. Freedom, cut me loose. Freedom, freedom, where are you? Cause I need freedom too. I break chains all by myself. Won't let my freedom ride in hell. Hey, I'ma keep on running cause the winner don't quit on themselves.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Barack Obama, c'est l'homme de politique que j'aime le plus. Sa femme et sa biche, Alexander McQueen. Il a un charisme fou, il sait marcher. Il dégage quelque chose. François Hollande, quand il marche, pas trop ça.
Je m'intéresse pas à la politique. Même la droite et la gauche, je sais pas ça sert.
Je sais pas vraiment à quoi ça sert. C'est pas organisé comme il le faut. Ça. En fait, avec la politique, on ne reçoit pas ce qu'on attend. C'est pour ça que ça ne m'intéresse pas.
Olivier Babinet, à l'évidence, dans ses entretiens au long cours, ils ont séché sur la politique. C'est vraiment en dehors de leur monde. Il y a autant les clips, les mangas, la télé, tout ça, oui. Mais alors, la politique, ils ne voient vraiment pas à quoi ça sert.
C'est vrai. Alors, Régis, c'est pas dans le film, mais il aime bien Sarkozy. Parce qu'il fait des fêtes à l'Élysée, et qu'il est marié à Carla Bruni, qu'il s'habille bien.
Alors, c'est le côté people des politiques,
voilà,
qui peut éventuellement...
Mais qu'il fait des fêtes, mais avec quel argent tu crois pas que c'est notre argent? Je me disais, oui, mais bon.
Alors justement, dans votre film, d'ailleurs, on l'entendait, lui, qui parlait d'Obama par rapport à Hollande. C'est assez vrai et assez cruel. Régis, c'est un des personnages extravagants de votre film. Il est inouï. Et quand vous disiez tout à l'heure, Olivier Babinet, c'est vrai qu'il y a les moqueries sur les petits, les gros, etc. Oui. Régis, il a une morphologie, il est rond, il s'habille d'une manière totalement extravagante. Et à un moment dans le film, vous avez dû lui demander comment il avait fait pour se faire accepter avec ce look tellement différent de celui de ses camarades. Et il dit tout tranquillement qu'il a fallu qu'il aille se battre. Il y a des combats qui se sont organisés derrière le collège et qu'il avait dû gagner ses combats pour se faire respecter, mais qu'après, on l'avait respecté.
Oui. Par exemple, j'aurais jamais pu imaginer des personnages pareils. Et pour Régis, oui, si j'avais écrit ça depuis Paris... j'aurais été là, bon, alors un jeune, un peu, qui est féminé, qui aime bien s'habiller, qui traîne avec sa maman, qui met le manteau fourrure de sa maman, il va forcément, ça va être une histoire terrible, qui va mal se terminer. Alors que non, en fait, oui, c'est complètement surprenant, parce que Régis, il est populaire. Il disait d'ailleurs que les gens, quand ils voient la bande-annonce, il habite à Sevran, qui est une ville très très dure, où il y a des endroits très durs, hein, toujours certains endroits. Il dit, dans l'ascenseur, les gens l'arrêtent, c'est bien Régis, tu nous représentes, ils sont hyper fiers, les gens, et contents de cette image-là. Et puis effectivement, il est meneur, il est même il fait partie des dominants, si on devait dire, il est protecteur même pour les faibles, parce que déjà il a énormément de répartie, donc faut se lever tôt pour le vanner, quoi, parce que avant d'en venir aux mains, déjà on se fait pas mal. Moi qui le pratique régulièrement, je peux dire qu'il faut être bien réveillé, quoi. Et effectivement, on découvre un personnage qui a des couches comme ça, qu'on découvre au fur et à mesure du film, qui sont très surprenantes, très loin de ce qu'on imagine.
Et parmi les autres personnages étranges aussi, sombres, intelligents, il y a Abou Fofana. On l'écoute parler de ses parents.
Mes parents sont pas spécialement là. Ils rentrent que le soir. Et des fois, ma mère, je la vois pas 10 jours. Ils disent pas, ils écrivent pas. Ils font rien. Il faut que travailler. Et des fois, à la maison, on regarde la télé ensemble. Je suis plus ambitieux. Comme ils ne savent pas lire et écrire, je leur explique. Et après, récit, tout ça.
Olivier Babinet, Abou Fofana, il revient régulièrement, il parle volontiers et en même temps, on sent qu'il est, lui, vraiment à cheval entre deux mondes, parce que la façon qu'il a de parler de son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, et de la France, on sent qu'il est... Il dit d'ailleurs, oui, je suis français, mais en fait, je suis plus ivoirien que français.
Et vous oubliez un pays, c'est qu'il dit, je suis italien. Parce que Abou, en fait, il est né en Italie, il a grandi en Italie, et il est arrivé en France pour des vacances avec sa mère, et puis un jour, et puis on lui a dit, non, on reste, en fait. Donc il a perdu tous ses amis, tout. Moi, quand je l'ai connu, donc il fait partie de ceux avec qui je mangeais à la cantine, on va dire, avec qui j'avais des liens d'amitié à vous, que j'aime énormément. Et bon, comme tous, mais voilà. Quand je l'ai connu, il venait dans ma salle, il parlait pas, il mettait toujours son sweatshirt jusque devant sa bouche, il avait un accent en creux. Il disait des crrr tout le temps, puis il parlait pas trop. Puis je lui ai demandé, mais ton père, il est où? Il savait pas, il répondait pas. Puis Aaron m'avait dit, mais si, il est au bled, ton père. Puis il s'est fait plein d'amis, finalement, Olney. Et puis, bon, il y a eu cette aventure qu'on a vécue ensemble. Là, il a déménagé à Saint-Denis, c'est pas trop pourquoi. Mais son père l'a rejoint. Sa mère était malade, en plus, c'était pas facile. Et je trouve que, quoi, il a une super famille. J'ai rencontré ses parents, il y a quelque chose de... Maintenant, la base, c'est bien reformé, quoi. Et c'est vrai que il est très timide. Il m'avait été présenté un peu comme un cancre dans la classe. Bon, moi, j'étais plutôt un cancre aussi, donc c'est peut-être pour ça qu'on est bien entendu. Mais franchement, c'était un cancre vraiment gentil, quoi. Il a dit des choses très profondes. Je suis content que vous passiez un extrait de lui, parce que c'est pas forcément... quoi, voilà, Régis, c'est plus extravagant. On retient les... Mais Abou, c'est vraiment quelque chose de très poétique et profond chez lui. Il a parlé de l'esclavage, il a parlé de choses de la colonisation. C'est un des seuls qui a mis des mots là-dessus.
Alors tous ces 11 garçons et filles, ils sont tellement attachants. On voulait donc avoir une petite rencontre avec eux en dehors de votre film, Olivier Babinet. Gladys Marie va nous a rejoint. Bon retour dans l'humeur vagabonde.
Bonjour Kathleen.
Avec une valeur augmentée, m'a-t-on dit. Voilà, vous êtes allé rencontrer quelques-uns des acteurs du film Swagger.
Oui, j'étais assez impressionnée à l'idée de les rencontrer. Des adolescents qui ont beaucoup d'étiquettes, je pense, collées sur eux, jeunes de banlieue issus de l'immigration. Je me suis dit qu'ils avaient une intelligence sur l'adolescence dont je me souvenais plus très bien. J'aimais beaucoup leur manière de parler de la banlieue, que je connais pas très bien non plus. Et l'immigration, cette vieille histoire qu'on connaît bien en France, mais qu'on présente toujours comme quelque chose de nouveau, qu'on rejette. Et je me suis dit qu'ils avaient beaucoup de choses à m'apprendre et j'y suis vraiment allée très timidement, avec beaucoup d'humilité. Et finalement, je leur ai juste tendu le micro, je les ai laissés parler entre eux. Je me suis effacée et donc vous allez entendre dans l'ordre Régis, Salimata, Mariama, Aïssatou, Abou, Aaron, Nazario, Paul et Naïla.
Le swag, c'est le style en fait, parce que c'était, on utilisait beaucoup ça avec Salimata. C'est, on disait, ah, t'es trop stylé. Et ben avec Salimata, on disait, ah, t'es trop swag. Et en fait, c'est le style, et surtout moi, vu que je vais pas me vanter, mais j'ai du style. Et du coup, on me disait, ah, t'es trop swag, t'es trop swag. En fait, il y a ma mère et il y a mon autre maman, parce que c'est ma tante en fait. Elle s'appelle Lucie, moi j'appelle maman Lucie. C'est ces deux femmes-là qui m'ont inculqué les valeurs de la mode en fait. Je dis maman parce que il y a ma mère qui m'a accouchée et il y a mon autre maman qui m'a coupé le cordon. Celle qui a coupé mon cordon ombilical du coup. J'ai deux mamans et ces deux femmes-là, je les remercierai toujours, toute ma vie, parce que c'est elles qui ont fait qui je suis aujourd'hui. C'est eux qui m'ont donné la force d'aimer la mode, de continuer, de faire ce que je veux et de voir outre les barrières quoi.
Toi, dans le film, tu dis que ton rêve, c'est de vivre à Paris et d'être styliste.
Ben en fait, mon rêve, c'est pas de vivre à Paris, c'est pas parce que à Paris on est plus heureux, c'est parce que Paris, c'est la capitale de la mode. C'est là où je suis tombé amoureux de la mode, c'est là où tout se passe. Christian Dior, Pierre Balmain, voilà quoi.
Comment c'est perçu à Aulnay-sous-Bois, enfin là où tu vis ?
C'est très très bien perçu. Au contraire, ils sont contents de voir quelqu'un qui voit outre les barrières, outre l'accoutrement qu'on porte, le jogging,
le moutonnement.
Ce que je dis, c'est tous des moutons, quoi. C'est des clones.
Bah, il a osé, on va dire.
Ouais.
Parce que y a peu de gens qui osaient à ce moment-là. On n'osait pas trop.
Ouais.
Tout le temps, le critiqueur et tout, on n'osait pas. Et il a osé. Il faut s'imposer, hein. Il faut s'affirmer dès la petite enfance. Quand les enfants ils sont sauvages, il faut les laisser sauvages.
Au collège, on voit que je suis petite, etc. Mais on ne sait pas comment je suis vraiment. On ne connaît pas ma personnalité. Et donc, ça les mène à penser que je suis ça, or que je suis autre chose.
Est-ce que c'est pas dur au collège de toute façon d'être soi-même ?
Ouais, c'est un peu difficile parce qu'en même temps, au collège, c'est... On dirait que toi-même, tu changes. Au collège, c'est là où ton corps, ta mentalité et tout, ça change en fait. Alors c'est dur de se sentir soi-même parce que c'est là qu'on cherche qui on est en même temps.
Bonjour, je m'appelle Abou Fofana, j'ai 16 ans. Je suis arrivé en France en 2009.
Justement, on parle beaucoup dans le film de français, pas français. Est-ce que tu te sens français ?
Ouais, je me sens français.
Abou, il se sent plus italien que français.
Pourquoi l'Italie ?
Bah, parce que je suis né là-bas et j'ai vécu là-bas pendant 9 ans.
Donc l'endroit où on est, c'est l'endroit d'où on se sent être ?
Ouais.
Bah, c'est où tu vis.
Être français, c'est être fier d'être français, être fier de son pays, de... dans les hauts, dans les bas, c'est être fier d'être français, revendiquer l'amour de son pays. Drapeau, même si on n'est pas d'origine française, on a grandi ici, on a tout appris ici. Nos plus grandes passions, on les a connues ici, donc c'est l'amour du pays.
Je suis né en France, à Paris, et je vis avec ma mère. Mon père, il est parti quand j'avais 2 ans. Ma mère, elle est d'origine mexicaine, et mon père, il est d'origine italienne. À un moment, on habitait à Paris, après on habitait en Italie, après on habitait dans la banlieue, après on est parti encore à Paris, après on est revenu dans la banlieue.
Qu'est-ce que vous pensez du regard qu'on porte sur la banlieue depuis Paris? Toi justement qui as vécu dans d'autres endroits, t'as dû entendre quand tu vivais à Paris ce qu'on disait de la banlieue.
Ils disaient la banlieue c'est dangereux, il n'y a que des voyous. Si tu vas là-bas, bah, tu vas devenir une racaille.
Et t'es une racaille?
Non.
Ils disent toujours la cité c'est violent, etc. Alors que nous on est bien la cité. Mm. C'est vrai, il y a de la violence, mais c'est pas H24.
Mm. En fait, les médias ils se focalisent extrêmement sur le côté mauvais. Et avec ce film, on essaye de montrer le bon côté, on montre aussi le mauvais. On montre ce que les médias voilà, doivent faire.
On montre la réalité.
La réalité.
Il n'y a pas de fake.
Il y a du mauvais.
Dans le film, on voit que tu as un vrai talent pour la comédie musicale. Comment t'as appris ça?
Ça, c'est en fait, depuis que je suis petit, je suis passionné de musique, en fait. C'est-à-dire que j'écoute un peu de tout. Je compose des petits trucs, quoi.
T'as inventé la chorégraphie, tout ça?
Moi, c'était un chorégraphe. Et puis, un jour, on m'a dit, tu vas danser dans le film. J'ai fait, aïe, oh là là. Le chorégraphe m'a dit, vas-y, bouge. Il y avait un moment, je bougeais même pas. Après, il m'a dit de me laisser aller. Après, j'étais à fond dans le rythme. Au bout d'un moment, il était choqué. Il a fait... Tellement j'étais à fond dedans. Donc, après, je me suis laissé aller.
Ça t'a fait du bien?
Oui. Ça m'a fait du bien.
Comment c'était le tournage avec Olivier Babinet? Il était comment avec vous?
Des fois, les questions elles étaient trop personnelles. Du coup, on avait très peur. La caméra, après les lumières, au bout d'un moment, je commençais à transpirer, en fait. Il a gagné notre confiance. Il m'a raconté ses petites choses personnelles. Comme ça, j'ai pu m'ouvrir devant la caméra et m'exprimer.
Après, j'ai vu dans ce film, c'était une très bonne expérience qui nous a appris... autre chose, à nous aimer les uns les autres.
Il essayait de nous comprendre, il parlait comme nous. Il nous expliquait gentiment. Si on comprenait pas, il nous réexpliquait. Les profs, ils restent dans leur vie privée et tout. Alors que lui, il s'ouvre à nous, il nous explique sa vie et tout.
Toi, dans le film, tu dis qu'il y a une fois où il y a eu un blanc qui est venu dans ta classe.
Il s'appelait Tom. Il est en 6e, après il est parti vivre à Nice. Parce que son père, il a déménagé. Il a dit que le quartier n'était pas bien.
Est-ce que tu trouves qu'il était vraiment différent de vous?
Non, parce que vu qu'il avait grandi dans une cité, il était le même. Il parlait comme nous, il n'était pas différent.
On est pareil, on est les mêmes filles, on a les mêmes histoires, enfin, les mêmes querelles, pareil. On écoute les mêmes musiques, on s'amuse pareil. Comme je suis au lycée, c'est pour ça, ça fait qu'il y a plusieurs personnes blanches, enfin françaises comme on disait. Au lycée, le cercle qui s'agrandit. Donc on a des gens d'un peu partout de la banlieue qui viennent, de Livry-Gargan, du Rincy, de Villemomble, des villes assez calmes quoi, où on va dire il y a moins d'immigrés qu'autre chose.
On sent que c'est compliqué de trouver le nom entre français, blanc, non immigré. Ça serait quoi à ton avis la bonne définition?
Français d'origine ou français. On peut pas dire de souche parce qu'il y a pas vraiment de français de souche. Donc on peut dire quoi? Je suis française, mais j'ai des origines ou français. Je pense que ça serait la meilleure. Parce qu'après, on est tous français, c'est ça. En fait, ça se voit déjà que t'as des origines, t'as pas besoin de le dire.
J'adore français avec des origines. On est tous français avec des origines. Merci Gladys. Olivier Babinet, il faut dire quand même, on entend d'ailleurs dans le reportage de Gladys la musique signée Jean-Benoît Dinkel. Il faut dire que ce film, c'est luxe. Parce que voilà, il y a la musique qui va avec les différents morceaux du film, les morceaux fiction, les morceaux de documentaire. Il y a cette lumière absolument magnifique grâce à votre chef-op qui s'appelle Timo Salminen, qui est celui de Aki Korismaki, donc une lumière. Vous avez voulu, et ça se sent quand on est spectateur du film, vous avez voulu offrir à ces enfants... un bel écrin. C'était important que ce soit un beau film sur le plan cinématographique.
Oui, mais je dirais comme tous les films que je vais faire encore, j'espère, ou ceux que j'ai pu faire,
J'aime bien la belle lumière, j'aime bien travailler le son, toutes les dimensions du cinéma, il y a plusieurs dimensions. Et le cinéma que j'aime souvent utilise ces dimensions-là. Voilà, je vois pas pourquoi j'éclairerais mieux un appartement haussmannien qu'un appartement de banlieue. Moi, j'ai aucune raison. Après, c'est vrai que c'est un documentaire, donc c'est peut-être ça qui est particulier. Et ça, c'est sûrement parce que moi, je réalisais que des fictions, donc j'avais besoin aussi de m'appuyer sur ce que je maîtrise et ce que je connais. Et puis aussi, je voulais les filmer comme des héros de cinéma parce que je trouve qu'ils ont une dimension héroïque. Et puis c'est vrai que Timo, avec qui je travaille depuis plusieurs années maintenant, il a toujours quelque chose de très digne quand il filme les gens. Il y a beaucoup de dignité.
En plus, il parle pas français.
Il parle pas français. Les gens l'appelaient le suédois ou l'anglais. Et il leur parlait par signe. Il les déplaçait des fois parce qu'il déplace les gens, les acteurs comme des meubles parfois. Donc c'était assez drôle.
Alors justement, comment cet objet filmé terminé a été reçu non seulement par les héros du film, mais par la communauté du collège et par les familles. Comment ça s'est passé?
Alors la première fois que qu'on leur a montré le film avec les producteurs, c'était sur une télé pour pas être trop impressionnant. Et puis ils étaient en deux groupes parce qu'ils étaient pas libres tous ensemble. Ils riaient, ils ricanaient par moments, ils se cachaient les yeux. Paul, quand il danse, il s'était complètement rentré dans la tête dans les genoux. Et puis quand il raconte des choses de sa vie. Mais ce qui était beau, je trouve, c'est que personne ne s'est moqué au mauvais endroit. Il y a eu quelque chose de très qu'est-ce qu'elle a dit dans votre reportage, quelqu'un a dit on a appris à s'aimer. Donc vraiment ça, je l'ai vu sous mes yeux à ce moment-là. La communauté qui se forme dans le film, due à la mise en scène, au montage, à ce que elle s'est formée en fait vraiment, et elle s'est, c'est là que je l'ai vu complètement se former. Par exemple Mariama, qui est une petite fille de 11 ans, qui raconte à un moment qu'elle est choisie en dernier en sport, et on sent que c'est vraiment pour elle très dur. Et ben Salimata, qui est beaucoup plus grande, l'a pris, elle a mis sa main sur sa tête comme ça. C'était vraiment
Et
mignon.
Comment est-ce que les parents ont vu leurs enfants, parce que j'imagine que c'était la première fois qu'ils entendaient des confidences pareilles.
Alors, il y en a certes. Moi, j'avais dit aux enfants, si vous voulez, vous le montrez à vos parents, mais c'est comme vous voulez. Parce que il y en a certains, pas du tout tous, mais il y en a au moins deux qui sont dans une situation vraiment difficile à la maison. Les autres, ça va, ils sont entourés, ça va très bien. Mais c'est surtout pour eux que je disais ça. La mère d'un d'entre eux l'a vu et a beaucoup aimé le film, elle l'a vu plusieurs fois. Bon, il dit qu'elle a pas compris le film, mais il n'a pas le droit de voir sa mère sans un éducateur, il la voit tous les 15 jours. Et puis l'autre, qui est Paul, l'a pas montré à ses parents pour l'instant. Quand j'ai dit, vous n'êtes pas obligé de venir avec vos parents, il m'a dit, je vais venir avec ma copine. Et puis après, quand on a montré le film à Aulnay, devant 450 personnes, il a été très bien accueilli, le film. Les enfants avaient beaucoup d'appréhension. Eux, entre-temps, avaient vu plusieurs fois le film, et puis comme ils le disent eux-mêmes, ils l'aiment maintenant, ils l'ont aimé de plus en plus. Mais bon, ils disent tous « c'est moi ». Mais après, ils se trouvent moches, ou je sais pas quoi, qu'ils avaient une voix de bébé, parce qu'ils ont changé.
Ben oui, cet âge-là, 2 ans, ça change.
Oui,
ils sont plus du tout les mêmes aujourd'hui. Justement, Olivier Babinet, est-ce que ce film a été important dans la construction des jeunes adultes qu'ils sont devenus depuis ?
Pour moi, c'est difficile à dire.
Est-ce que vous dites par exemple Nazario qui rêvait de construire des systèmes pour les militaires, maintenant il a envie de faire un des métiers du cinéma. Est-ce que pour certains, ça a remis quelque chose d'aplomb dans leur projet d'avenir notamment ?
Certainement, et en même temps, moi je suis très content parce que l'autre fois il y avait une avant-première à Saint-Denis, on leur a demandé qu'est-ce que tu vas faire, et un par un ils ont dit, et ils disaient tous, Astan disait, moi je veux faire des études d'infirmière, si on me propose un rôle, très bien, mais je veux devenir infirmière, et à chaque fois passait avant finalement leur projet personnel. Ils sont pas complètement acteurs, c'est eux, même s'ils sont, ils crèvent l'écran, et puis ils ont sûrement des talents d'acteurs, mais ils ont gardé les pieds sur terre, quoi. Ça, c'est important, je trouve. Quand on est allé à Cannes, on a monté les marches, c'était formidable, mais voilà, faut pas choper le melon et, mais sûrement que ça a changé quelque chose, ça. Puis il y a des liens qui sont créés avec d'autres gens de l'équipe, avec la productrice, avec Nicolas Bianchi qui s'occupait et du casting et de la production et plein de choses, et de ramener les petites filles et de... qui a un blond aux yeux bleus, avec un foulard.
Mais pour vous, Olivier Babinet, j'ai l'impression que les liens que vous avez tissés, avec pas seulement avec les enfants, mais avec ce qui se passe là, c'est devenu quelque chose qui fait vraiment partie de votre vie.
Bah oui, oui, de toute façon, c'est... un film, c'est toujours comme ça, mais là, c'est particulier.
Eh bien, c'est devenu particulier pour nous aussi. Voilà, c'est un très très beau film, il s'appelle Swagger, il est sorti ce mercredi sur les écrans en France. J'espère qu'il aura une longue vie et à bientôt pour le suivant. Au revoir, merci Olivier Babinet, merci à vous.
Barola, anga shufe barola. Nebe mirila, kanula, ne kanunyo berela. Mirila Javala Jafurunyo Java Manini Debi Fe Nebe Mirila Shirila
pour l'humeur vagabonde de ce dimanche. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. L'humeur vagabonde sera en direct du studio éphémère dans la galerie scène de Radio France, puisque Radio France fêtera le livre dimanche prochain. Je recevrai la photographe Françoise Huguier, de retour de Séoul, et Eliza Giorgieva, qui publie un premier roman aux éditions Verticales sur la Bulgarie de son enfance, la Bulgarie communiste. Passez un très bon dimanche à l'écoute de France Inter. Tout de suite après les informations de 15h, vous avez bien entendu rendez-vous avec Fabienne Chauvière et ses aventuriers.